France Inter, le 18-20.
Alors le PS n'est pas mort, en tout cas il bouge encore, il bouge beaucoup en ce moment, puisqu'en quelques jours ce sont 5 hommes et femmes, 4 hommes et une femme, arrivés elle par surprise ce matin, qui ont déclaré qu'ils étaient candidats au poste de premier secrétaire du parti. Il reste 3 mois avant le congrès, l'élection, premier tour c'est le 15 mars, le second tour le 29 mars, en lice pour l'instant, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas, Emmanuel Maurel et Delphine Bateau, donc dernière arrivée ce matin. La liste évidemment n'est pas exhaustive, on n'est peut-être pas au bout des surprises ni des retours. Allez savoir, mais pour quel parti, pour quelle ligne, pour quelle idéologie, pour quel positionnement entre les insoumis et les marcheurs, pour quel nom aussi, et au fait il habite où le Parti Socialiste, puisque Solferino c'est fini, les questions sont les vôtres, on est parti.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et Pierre, c'est vous qui ouvrez le bal ce soir, soyez le bienvenu Pierre, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je voudrais donc poser une question, mais tout d'abord, comme je l'ai dit quand on m'a appelé, je le dis clairement, je suis un petit peu scandalisé par les propos, par le ton, par les mots qui sont utilisés à l'encontre donc du Parti Socialiste et de ses électeurs. J'y vois quand même une certaine moquerie, pour ne pas dire un mépris.
Alors
je trouve qu'il serait bon quand même que France Inter, qui est une radio donc de service, pour le service public, fasse attention. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait 5 ou 6 candidats, est-ce que le PS bouge par exemple, est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait 5 ou 6 candidats, ou alors une élection, un peu néo-stalinienne, comme celle de M. Castaner à La République En Marche? Je pense que c'est une bonne question aussi qu'on pourrait poser.
Ben, pourquoi pas, allez-y, vous savez,
voilà.
5,
non,
6, 7, 8...
C'est intéressant que France Inter donc retrouve une certaine déontologie journalistique.
Très bien, allez-y Pierre,
alors,
vous avez une question peut-être, allez-y.
Je pose ma question et je dis, finalement, puisque on a un espace politique qui est occupé par donc La République En Marche, qui est centrale, centriste et qui est très large, est-ce que finalement... est-ce que l'avenir du PS n'est pas donc de retrouver le fait d'être la vraie gauche, et je le dis un peu avec aplomb, de virer, mais je le dis carrément, de virer tous les gens qui ont trahi soit Benoît Hamon et qui ont trahi donc l'idéal de gauche, avec Manuel Valls en premier, Stéphane Le Foll, et beaucoup d'autres. Pour que le PS puisse continuer à vivre et à faire respirer ses électeurs, il faut qu'il redevienne tout simplement la vraie gauche et pas le social trahison qu'il a été.
Voilà. Eh ben écoutez, comme ça c'est clair Pierre, merci beaucoup pour j'allais dire votre question, votre remarque pour vous répondre et pour débattre avec nous ce soir dans le téléphone sonne autour de la table. Valérie Rabault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste du Tarn-et-Garonne et pour que votre présentation soit complète, vous êtes soutien d'Olivier Faure et vous avez...
Alors elle va dire non.
Vous pouvez dire non, on y revient
non,
dans
non,
une
je
seconde.
Dis non.
On y revient dans une seconde, vous êtes plus soutien d'Olivier Faure alors.
Je n'ai jamais été, je suis...
On lui a prêté en fait.
On me fait beaucoup parler et ce que je trouve assez désagréable, ce qui peut-être... je ne parle pas pour France Inter.
Mais je vous en prie, vous savez pas où on en est.
Non, je suis soutien d'un collectif de militants, de premiers fédéraux qui se sont rassemblés de Paris à la Haute-Garonne. Manifeste pour un progrès partagé, qui fait des petits, puisqu'il y a une autre tribune qui a été publiée dimanche dernier, qui fait des propositions qui vont un peu sur tous les sujets. Et ce manifeste a bien l'intention de grandir dans ce congrès, tout simplement parce que les 5 candidatures sont des candidatures en solo, sur une ligne, à part pour un des candidats que nous connaissons, mais pour les autres c'est quand même un tout petit peu plus compliqué, et que nous pensons que ce congrès, ça doit d'abord être celui de la ligne politique du Parti Socialiste, avant d'être celui des égaux.
On va y venir, Valérie Rabault, évidemment, manifeste pour un progrès partagé, c'est ce qui a été publié dans le journal du dimanche, c'était ce dimanche, ça veut dire que de ce manifeste émerge une motion et émerge un homme et une femme, on est d'accord? C'est de ce manifeste-là qu'émerge un candidat.
Ce manifeste a l'intention d'aller jusqu'au bout, de faire une motion, c'est-à-dire que une motion, après, elle peut être partagée avec d'autres candidats potentiels.
Ah,
mais si jamais il n'y a aucune rencontre...
Le retour d'Olivier Faure.
Vous me faites dire beaucoup de choses. Et je vais finir.
C'est combien de temps de ma
faute ? Je vais finir jusqu'au bout. Si jamais on ne rencontre pas sur des idées assez novatrices qui sont menées un écho, nous avons toujours la possibilité de déposer une motion avec un ou une première signataire.
Et du coup, pour finir avec votre présentation et en venir avec l'autre invité du téléphone sonne, comme ça on en finira sur ce fameux manifeste pour un progrès partagé, s'il y a motion, Valérie Rabault, est-ce que potentiellement vous pouvez être celle qui porte cette motion et donc être candidate ?
Il peut y avoir plusieurs premier signataire potentiel qui existe aujourd'hui.
D'accord, encore une fois, que la porte n'était pas totalement ouverte, mais qu'elle n'était pas fermée.
Non, mais encore une fois, le Congrès, ça peut pas être le bal des égaux, où chacun arrive en disant moi je suis le meilleur et n'écoutez pas les autres. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que nous voyons les choses. Et quand vous regardez les premiers signataires de ce manifeste, nous sommes des premiers secrétaires fédéraux, c'est-à-dire que nous rencontrons tous les jours des militants, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde.
Pour répondre aux questions aussi ce soir, on va revenir à vous, Valérie Rabault. Rémi Lefebvre est là. Bonsoir, monsieur Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Lille 2. Vous êtes en duplex depuis France Bleu Nord à Lille. On salue nos camarades de Lille au passage et on les remercie d'ouvrir leurs locaux. Et puis Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, est là aussi. Laurence Perron qui m'avait dit que vous étiez Valérie Rabault.
Voilà, qui vous a collé cette étiquette. Mais je ne suis pas la seule.
Soutien d'Olivier Faure. Allez, je voudrais qu'on réponde à la question de Pierre qui dit tout simplement, Valérie Rabault, pour que ça marche, pour qu'une motion fonctionne, cap à gauche toute. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre ?
Moi, je réponds à Pierre une chose, qui est de dire que dans un parti politique, il faut qu'on apprenne à travailler de manière collective, c'est-à-dire à respecter une ligne majoritaire. Alors, une ligne majoritaire, ça ne se décrète pas. Ça se décrète pas. Moi, je suis favorable à ce que fait un peu le Parti travailliste, par exemple, britannique, c'est de dire sur l'ensemble des sujets, il y a un vote des militants. On leur demande de s'exprimer. Par exemple, souhaitez-vous, sur des positions européennes, que nous fassions telle proposition avec les Allemands? Souhaitez-vous, par exemple, qu'il y ait une élection du président de la Commission européenne au suffrage universel? Souhaitez-vous que nous instaurions un revenu universel? Toutes ces questions-là doivent être tranchées par les militants. Une fois qu'elles le sont, ça veut dire qu'il y a une ligne majoritaire qui se dégage. C'est oui, c'est non, c'est peut-être, c'est avec telle condition. Enfin bref, il faut qu'elle soit respectée. C'est-à-dire c'est quand même ce goût du collectif qu'il faut retrouver. Et ça suppose, un, qu'on vote en amont, deux, qu'on respecte en aval.
Oui, mais là, en même temps, ça va se passer très vite. C'est-à-dire que là, à partir du 29 mars, vous avez un nouveau ou une nouvelle première secrétaire.
Oui, non, mais Pierre disait il faut virer ceux qui ont soutenu un tel ou pas un tel, etc. Je suis pas certaine.
Non, mais virer Manuel Valls, virer Stéphane Le Foll, virer tous les anciens.
Alors, Manuel Valls, c'est viré.
Manuel Valls, il est déjà parti. Dans ce congrès, moi, j'ai pas envie de regarder vers le passé, j'ai plutôt envie de regarder vers l'avenir. Si on veut pas que tout ceci recommence, il faut se fixer des règles claires. Voilà. C'était la première réponse à Pierre. Maintenant, sur la ligne politique, que moi je défends, alors je sais pas exactement où est-ce qu'il voulait aller en disant la vraie gauche, j'ai aussi l'impression que quand on est vraiment social-démocrate, socialiste, on incarne aussi la vraie gauche.
Rémi Lefebvre, quand on parle de ligne majoritaire, ce que vient de dire Valérie Rabault, est-ce qu'on a l'impression quand même, et est-ce que c'est pas le problème, est-ce qu'on a l'impression qu'une ligne majoritaire se dessine sur certains sujets au Parti Socialiste ou pas ?
Écoutez, cette ligne majoritaire, elle va se dégager du Congrès. L'objectif du Congrès, c'est de définir une direction à tous les sens du terme. Une direction, c'est-à-dire un premier secrétaire, une équipe. Une direction, c'est aujourd'hui trancher un certain nombre de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas entendu encore beaucoup les propositions des cinq candidats. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le Parti Socialiste n'a pas véritablement clarifié ce qui s'est passé entre 2012 et 2017. C'est-à-dire qu'en fait, depuis six mois, le PS a mis en place une direction provisoire pléthorique, mais en fait n'a pas trancher un certain nombre de questions. Il s'oppose aujourd'hui à Emmanuel Macron, mais finalement, on a vraiment l'impression qu'il met un peu la poussière sur le tapis. C'est-à-dire que comme c'est un parti qui est menacé d'explosion, il ne veut pas trancher un certain nombre de questions politiques, notamment le bilan, en fait, de François Hollande. Alors évidemment, qui a miné la cohésion du Parti Socialiste avec les frondeurs pendant 5 ans, mais cette question-là, aujourd'hui, elle doit quand même être traitée. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Valérie Rabault pour dire qu'évidemment, un parti doit se projeter dans l'avenir, sauf qu'un certain nombre d'électeurs ont été extrêmement déçu de la dernière partie du mandat, la déchéance de nationalité, la loi M. Khomri, où ils n'ont pas vu beaucoup de différence avec Emmanuel Macron. Et donc, c'est en partie en fonction d'un droit d'inventaire que le Parti Socialiste peut faire par rapport à la période gouvernementale, que le Parti Socialiste peut se positionner. Et c'est à cette condition, éventuellement, qu'il retrouvera un espace politique. Et alors, je voudrais juste quand même rebondir sur ce qu'a dit Pierre, parce
Allez-y.
Que Pierre a dénoncé le PS bashing aujourd'hui des médias. C'est vrai que c'est très frappant. Depuis que les candidatures sont sorties dans les médias tombent à bras raccourcis sur le Parti Socialiste. Je suis d'accord avec lui. Le Parti Socialiste, effectivement, il a quand même une caractéristique dans cette période, c'est d'avoir une vraie démocratique interne. Hein, ce qui n'est pas du tout le cas en Marche ni à la France Insoumise, où je rappelle, il n'y a pas du tout de vote des adhérents. Il n'y a pas de vote là. Les adhérents vont voter d'abord sur des motions, puis sur des candidats. Donc, il faut quand même souligner que finalement, cette démocratie démocratie, c'est une richesse pour le Parti Socialiste, même si elle donne prise à la critique, puisque les journalistes ne voient très rapidement que des luttes de personnes. Attendons d'écouter un petit peu ce que les candidats vont à proposer pour en venir tout de suite au cadrage médiatique, toujours sur les luttes internes au PS. Voilà, c'est un parti qui doit se refonder, donc effectivement, il y a des dissensions. On pourra se poser la question si ces dissensions sont artificielles. Pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire.
Alors, je ne vais pas me défendre, mais il n'y a pas que les journalistes qui parlent de lutte de personnes, puisqu'on a vu à l'instant, Valérie Rabault, que vous parliez, vous, de lutte d'égo. Donc, on est un petit peu aussi sur le même registre. Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Rémi Lefebvre, je voudrais qu'on écoute Eric. Bonsoir, Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Vous êtes le bienvenu dans le téléphone sonne, Eric, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. En préambule, félicitations à votre radio, à vos émissions, dont je suis un auditeur fidèle et c'est une radio qui rend intelligent. Voilà. Ma question, c'est plutôt une analyse, c'est-à-dire que finalement, il faut justement faire ce devoir d'inventaire. On peut pas passer à côté de l'inventaire, donc des années Hollande, même des années Jospin, j'irais, pour même les plus anciens. On n'a pas fait ce droit d'inventaire, on n'a pas fait cette analyse, on n'a pas déterminé qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Les années Hollande, je prendrais comme symbole le fait de monter sur une camionnette et de dire à des ouvriers qu'on va les aider, voire les sauver pour certains. Et à l'arrivée, on trahit quelque part les gens, on trahit notre électorat, on trahit la classe moyenne, on ne fait pas de réforme fiscale, on ne donne pas de cap et de ligne claire. Et derrière, on ne trace pas, on ne donne pas une ligne politique. Donc ce qui fait qu'on est dans un flou, un entre deux et des gens qui ne se sont absolument pas retrouvés, qui se sont perdus. Et moi, ce que j'attends du Parti Socialiste, c'est en effet, aujourd'hui, une clarification. Il faut être clair, il faut trancher dans le vif. Les gens qui ne sont pas sur la ligne, qui ne sont pas d'accord, elles sont là, ces gens n'ont pas à rester au Parti Socialiste. Il faut être clair. J'espère que Mme Rabault adoptera cette position, parce que c'est cette position-là qu'il faut avoir vis-à-vis de nos militants.
Merci beaucoup. Merci, Eric, pour votre remarque et votre question. Valérie Rabault, est-ce qu'on peut avancer si on ne fait pas l'inventaire avant ?
L'inventaire, il peut se faire de différentes façons, mais il peut se faire aussi au travers de propositions que vous mettez en contraposé. Quand vous demandez aux militants, par exemple, vous pouvez prendre un exemple, on va reprendre le revenu universel parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre pendant cette campagne.
Puis on ne peut pas dire que le Parti Socialiste l'ait beaucoup défendu, il était un petit peu seul, Benoît Hamon, là-dessus.
Sans doute, mais la proposition, elle est quand même arrivée assez tardivement. Donc, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? 12 départements présidés par des socialistes font une expérimentation. Ça passe complètement sous silence. Mais ça, c'est une vraie démarche. C'est-à-dire se dire comment ça peut marcher. Comment le monde du travail évolue. On n'est pas toujours chez le même employeur. On n'arrête pas de le dire à tous les micros. Et pour autant, des propositions novatrices là-dessus, elles sont pas forcément sorties ni dans nos rangs, ni d'ailleurs ailleurs. Donc c'est ça, être très concret. Et c'est aussi, et ça c'est vraiment une rénovation de la démocratie. Tout à l'heure, Eric disait à juste titre, que le Parti Socialiste est le seul qui fait voter. Moi, je crois que les militants doivent trancher sur toutes ces questions. Et pas leur mettre un texte fourre-tout, mais c'est-à-dire sur la vie du Parti Socialiste, trancher sur l'Europe, trancher sur l'application de la laïcité concrète, trancher par exemple sur ce qu'on veut faire en termes de dépendance. Est-ce que oui ou non, on veut créer un service public des maisons de retraite ? Ça aussi, c'est une question qui se pose pour notre société. Toutes ces questions-là, elles peuvent être portées. Et encore une fois, on a une ligne claire. Si on les met sur la table, si on les fait voter, si elles récoltent un vote majoritaire, ce vote doit être respecté.
Laurence Perron ?
Une ligne aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on voit les 5 candidats déclarés aujourd'hui, peu ou prou, mis à part Emmanuel Morel, qui dit revendiquer l'héritage de Benoît Hamon et l'héritage, entre guillemets, des frondeurs, on est un peu dans une espèce de magma un peu social-démocrate, alors tout en disant qu'on a dépassé ça, mais pour le coup on reste. Est-ce que, pour les militants, c'est clair, quand vous dites la ligne claire, est-ce qu'on est à gauche, est-ce qu'on est une gauche d'opposition, est-ce qu'on est une gauche d'opposition à Emmanuel Macron ? Parce que lui, sur ce terrain-là de la social-démocratie, ni droite ni gauche, Emmanuel Macron, il a rempli l'espace. Est-ce qu'il reste encore un espace ? Est-ce que cet espace doit être vraiment résolument plus à gauche ? Comme c'était le pari d'ailleurs de Benoît Hamon. Et comme ça l'est toujours, d'ailleurs.
Non, je ne suis pas certaine qu'Emmanuel Macron remplisse l'espace du centre-gauche. Parce que quand on voit les choix qui ont été faits au cours de la loi de finances, je ne suis pas certaine que ça réponde à un centre-gauche. En tout cas, moi, je suis certaine du contraire. Ce qui est sûr, c'est que vous parlez des... Allez, on va mettre Emmanuel Morel un petit peu à part, parce qu'on connaît sa ligne politique. Pour les 4 autres, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les propositions qu'ils vont mettre sur la table. Je connais celles que nous, notre collectif... on est en train de mettre sur la table, qui sont débattues. Nous avons mis un questionnaire en ligne où les militants peuvent dire si oui ou non sur toutes les propositions, ils sont d'accord ou pas. Et ça, évidemment, ça alimente l'écriture. C'est un peu une écriture participative. Bien sûr, on défend une ligne et une ligne politique. Mais encore une fois, ce que je regrette dans la manière dont s'oriente un peu ce congrès, c'est qu'à l'heure où je vous parle, sur les quatre autres candidats à part Emmanuel Morel, je ne sais pas quelle est la ligne qu'il porte.
Vous êtes une ligne d'opposition. Ah ben la politique d'Emmanuel Macron résolue.
Nous, on est une ligne d'opposition.
Et qui va jusqu'où? Jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, sur, tend la main
sur la question. Mais je vais prendre un exemple très concret, parce que moi, j'aime bien les choses concrètes. Là, on a fini, pendant 4 mois, on a débattu du budget. Quel est le groupe d'opposition qui a fait voter le plus d'amendements à l'Assemblée nationale? Quel est-il, ce groupe d'opposition? Ben, c'est le Parti Socialiste. Alors, je sais que ça n'a pas fait la une des médias, que ce n'est pas forcément ce qui remplit la presse, mais c'est le Parti Socialiste. Si le Parti Socialiste y est arrivé, c'est parce qu'il a été extrêmement présent, il s'est battu sur tous les articles, et surtout, il a fait un contre-budget et des contre-propositions. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a réussi à infléchir la ligne d'Emmanuel Macron au point de l'inviter, ou en tout cas de le convaincre de renoncer à la suppression de l'ISF. Je vous mentirai, bien évidemment.
Mais c'était votre combat.
Mais on a fait voter, on est le groupe politique, le Parti Socialiste, qui a fait voter le plus d'amendements pendant cette loi de finances.
Rémi Lefebvre, cette question pour vous qui vient de Serge en Normandie sur franceinter.fr. Je suis militant PS depuis 2012. Les élus ne passent pas assez de temps avec les militants. Le PS, ajoute-t-il, est dans une politique consumériste qui colle au libéralisme ambiant. Sur le fond, est-ce que vous avez le sentiment que le Parti Socialiste a perdu le contact ?
Ah, écoutez, alors ça, la critique des élus, ça c'est une figure imposée des militants, notamment au moment des congrès. Hein. Alors d'abord, le PS a de moins en moins d'élus, hein, parce qu'il a perdu beaucoup d'élections régionales, cantonales, municipales. Donc c'est un parti qui n'est pas seulement décimé au niveau parlementaire, il est décimé dans ses profondeurs territoriales. Hein, il a perdu énormément de soutiens locaux.
Et d'adhérents aussi, vote, d'ailleurs, Rémi Lefebvre, au passage.
Et d'adhérents. Lors du vote sur le questionnaire de la refondation, il y a eu 20 000 seulement votes des militants. Donc c'est un parti, un des tests de ce congrès, ça va être combien d'adhérents vont participer à ce congrès. Les chiffres qui sont donnés par la direction sont sans commune mesure avec le nombre de militants dans les sections. Donc effectivement, c'est un parti qui s'est beaucoup notabilisé, en fait. C'est aussi le problème de ce parti. C'est un parti, souvenez-vous, qui entre 2002 et 2012 a gagné toutes les élections locales. C'était était devenu un parti de professionnels de la politique, de gestionnaires, qui se désintéressaient de la vie politique nationale, qui au fond ont participé aussi du désinvestissement idéologique de ce parti. Et donc aujourd'hui, ces élus, ou bien ils ont perdu, ou bien effectivement, très souvent, ils conservent ces réflexes un peu notabilières, où en gros, on encadre les militants, on ne donne pas forcément la parole aux militants. C'est aussi un peu le cri de Delphine Bateau, alors même s'il est un petit peu excessif dans son vocabulaire, puisqu'elle parle de mafia, mais aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai problème de renouvellement et de structuration du parti. Le Parti Socialiste est un parti qui a une structuration un peu féodale, et aujourd'hui, s'il veut rebondir, s'il veut se refonder, s'il veut aussi être concurrencé ces nouveaux partis mouvements beaucoup plus fluides que sont En Marche ou La France Insoumise, il doit revoir complètement sa structuration territoriale. Et donc effectivement, il y a des innovations au niveau local, mais il y a eu aussi beaucoup de dépolitisation. Aujourd'hui, le Parti Socialiste peut certes se reconstruire à partir de ses élus, mais dans beaucoup de départements, dans beaucoup de villes socialistes, on ne voit absolument pas la différence entre une gestion socialiste et une gestion de LR. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça c'est un scénario, reconstruire le Parti Socialiste par le bas. Mais alors à ce moment-là, il faut vraiment renouveler le parti, et c'est pas vraiment ce qu'on voit. C'est-à-dire que dans les candidatures qu'on voit aujourd'hui à la tête du Parti Socialiste, c'est plutôt des hommes d'appareil, c'est plutôt des gens qui ont toujours fait de la politique. Il n'y a pas vraiment de tête nouvelle, il n'y a pas vraiment de profil nouveau. Aujourd'hui, le PS doit reconquérir les milieux populaires, mais les milieux populaires ne sont pas du tout représentés pour l'instant dans l'offre de candidature. Et donc, voilà, l'organisation, c'est aussi une variable importante. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est pas simplement un parti qui était défait électoralement, c'est un parti qui a perdu son sens organisationnel. Et donc, pour répondre in fine à votre question, effectivement, le sens des réalités sociales du Parti Socialiste, ça, c'est aussi un parti qui doit à nouveau être en prise avec les milieux populaires. Ça fait 15 ans qu'on le dit et ça n'a cessé de se dégrader.
Je voudrais qu'on écoute Christophe avant que vous puissiez répondre, Valérie Rabault. Bonsoir, Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, Christophe.
Voilà, merci pour vos émissions. Donc moi, je suis encore adhérent PS par fidélité, par conviction, un petit peu. J'aurais 3 questions en rapport avec ce qui avait été dit un peu plus tôt. Premièrement, la situation actuelle du PS n'était pas liée à l'absence de ligne politique définie par les premiers secrétaires, notamment par François Hollande en 2005, lorsque la fracture est apparue.
Deuxièmement, la fracture européenne.
Oui. Deuxièmement, reste-t-il un espace pour le PS entre un centre actuellement occupé par La République En Marche et une gauche exclusivement contestataire? Et troisièmement, ne nous dirigeons-nous pas vers un bipartisme à l'américaine avec un parti conservateur qui serait issu d'une fusion LRFN et un centre actuellement occupé par La République En Marche?
Merci beaucoup. Vous avez tout bien résumé, Christophe. On n'a plus rien à faire. Nous, merci beaucoup, Christophe. Valérie Rabault, sur le début de la question de Christophe, l'absence de ligne politique.
Oui, alors mais peut-être que je
navigue à vue, nous dit Christophe, qui est toujours adhérent et qui votera.
Oui, je voulais juste peut-être répondre à la personne précédente.
Armie Lefebvre, notre...
Moi, je suis favorable à ce que les élus rendent des comptes aux militants, et même de manière un peu obligatoire. C'est-à-dire que si on brigue un mandat ou une investiture pour un mandat suivant, il faut pouvoir justifier d'avoir rendu des comptes aux militants. Ça me paraît être indispensable.
Donc ça veut dire qu'il faut un droit d'inventaire pour les élus, mais pour l'instant on ne parle pas de droit d'inventaire pour la période Hollande et
c'est
même
pas
la
un
période
droit
précédente.
Il a été demandé quand même, ce droit d'inventaire.
Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez droit d'inventaire. Venir expliquer aux militants ce qu'on fait en tant qu'élu, ça doit se faire au cours du mandat, c'est pas à la fin, on n'attend pas à la fin. On peut aussi, quand on a des textes de loi, moi je suis dans ma fédération, il y a certains textes de loi que j'ai soumis aux militants, on a écrit des amendements ensemble. Il ne faut pas être déconnecté. Mais je veux dire qu'un élu qui serait jamais venu rendre compte aux militants, on peut très bien lui dire, écoute, pour ton investiture prochaine, ce sera sans toi. Alors, sur la situation et sur la ligne politique... L'absence de ligne politique. Christophe a raison. Depuis 2005, on est dans une situation hypocrite où on n'a pas tranché notre débat. On n'a pas tranché... 2005, c'est le référendum sur l'Europe, exactement. Et on est resté dans un entre-deux qui est mortifère. Je crois qu'il est grand temps, alors on peut prendre la question européenne, de dire exactement ce qu'on veut. Mais il ne faut pas le dire tout seul. Il faut que le Parti Socialiste arrête d'écrire sur l'Europe des textes tout seul, parce qu'après, quand on va les négocier avec les autres, on ne va pas arriver à se mettre d'accord. Moi, je pense qu'il faut plutôt prendre le problème en sens inverse, dire on a rencontré nos amis du SPD allemand, nos amis du Partito Democratico en Italie, nos amis portugais, nos amis du PSOE espagnol, dire voilà comment on a commencé à se dire où on peut avancer et rendre compte aux militants de l'état de nos négociations. Je vais prendre un exemple très concret. Il me semble qu'on pourrait quand même avancer avec un certain nombre de pays, peut-être pas l'Europe de l'Est, mais il faudrait quand même y arriver, sur une forme de bouclier social qui, dans le fond, définisse un salaire minimum pour tout le monde, fasse qu'on ne se retrouve pas dans des situations de concurrence qui sont extrêmement ravageuses pour l'idée même européenne de concurrence déloyale et puis aussi de situations sociales qui peuvent être très difficiles. Ça, c'est un exemple.
Mais là, vous parlez d'alliance avec des vieux partis, c'est-à-dire que, par exemple, Benoît Hamon, lui, fait le choix d'aller, par exemple, parler avec Yanis Varoufakis de Diem 75. On est dans une autre forme de gauche. Vous restez quand même sur une social-démocratie, une position un peu centrale.
Les vieux partis, oui, le SPD a 150 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il porte de vieilles idées. On peut avoir un socle fort. Je rappelle que le SPD porte quand même comme devise liberté, égalité, fraternité, qu'il s'est inspiré des Lumières françaises. Donc, il faut qu'on aille négocier avec ces partis et qu'on revienne devant les militants pour dire ce qu'on a obtenu. Parce que partir la fleur au fusil en disant « nous les Français, voilà ce qu'on veut » et après revenir benoîtement avec rien du tout à la besace à présenter aux militants, c'est mortifère. Donc ça, c'est sur l'Europe. Mais là où Christophe a aussi raison, je crois que sur la ligne, c'est-à-dire la ligne économique, comment on repense le travail aujourd'hui? Comment on repense le soutien aux entreprises? Est-ce que, moi je suis favorable à chaque fois qu'il y a du soutien, à ce qu'il y ait des conditionnalités? Ça, je souhaite que ce soit écrit dans ce congrès, que ce soit porté. Et pour moi, c'est être une ligne social-démocrate. Parce que quand on met des conditionnalités, ça veut dire qu'on est deux. Il y en a un qui prend un engagement, l'autre qui assure un soutien, et l'autre c'est cette puissance publique. Je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, moi c'est ce que je défendrais.
Après, c'est ce qui s'était passé avec le CICE. Le PS avait demandé à ce qu'il y ait des conditions qui soient données aux aides qu'on allait porter aux entreprises.
Pas aller tout à fait jusque-là.
Et François Hollande,
il n'était pas allé tout à fait jusque-là. Mais vous prenez un autre exemple en Italie, alors c'est peut-être pas l'exemple que vous souhaiterez, mais quand même je vais le dire, quand Matteo Renzi a fait la réforme du marché du travail, il a négocié 10 heures au sein de son parti pour qu'ils aboutissent à une forme de consensus. La solution qui a été votée n'est pas celle de Matteo Renzi initiale, elle est celle qui résulte d'une discussion avec son parti politique. Il est allé voir son parti politique avant même d'aller au Parlement.
Rémi Lefebvre voulait intervenir. Monsieur Lefebvre, on vous écoute.
Oui, je crains que le pari de Valérie Rabault soit suivi d'une certaine forme de désillusion, parce qu'aujourd'hui, le problème, effectivement, c'est que le PS veut une réorientation de la politique européenne. Il essaie timidement de convaincre ses partenaires, mais ses partenaires ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Aujourd'hui, peut-être Jeremy Corbyn, mais en plus, les Anglais sont sortis de l'Union européenne, mais aujourd'hui, le SPD n'est pas du tout prêt à réorienter la politique européenne. Elle est plutôt aujourd'hui en passe de conclure une alliance avec la CDU. Et aujourd'hui, le problème du socialisme français, c'est aussi le problème de la social-démocratie, européenne, qui en fait a joué la carte de l'Europe, mais perd plat de couture. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un vœu pieux de croire aujourd'hui que cette réorientation de la politique européenne passe par une alliance des partis sociaux-démocrates qui n'existe même pas, puisque le Parti socialiste européen n'existe pas. Alors sur la question de l'espace politique, parce qu'elle me paraît absolument très importante, cette question posée par Christophe, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas un espace qui va naturellement se reconstituer pour le PS entre le centre droit ou centre incarné par Macron et la gauche contestataire et populiste entre guillemets de Mélenchon. Ça, c'est ce que beaucoup de socialistes croient. C'est-à-dire qu'ils pensent en fait que le balancier va revenir et que le PS va revenir un petit peu avec le balancier traditionnel sur son espace politique. Et je crois que moi, c'est là encore un pari qui est un peu risqué parce que cet espace, le PS doit le reconquérir. Il ne va pas revenir mécaniquement. Et il faut qu'il prouve aujourd'hui aux électeurs qui sont partis vers Benoît Hamon, aux électeurs qui sont partis vers Jean-Luc Mélenchon, mais aussi aux électeurs plus modérés qui sont partis vers Macron, que le PS incarne une alternative. Et il y a un énorme travail idéologique à faire parce que aujourd'hui, le Parti Socialiste n'incarne pas cette alternative. Et quand on regarde les textes du Parti Socialiste, effectivement, il y a une ligne qui était celle de François Hollande, parce que je ne suis pas d'accord de dire que François Hollande n'avait pas de ligne. Il avait une ligne, sa politique est orientée vers la restauration de la compétitivité des entreprises. Ce qui s'est fait au prix du reniement du programme de 2012, dans une très large mesure. Il n'y a pas eu du tout de conditions qui ont été posées, alors même à ces aides aux entreprises, alors même que le Parti Socialiste au congrès de Poitiers avait demandé une réorientation de la politique économique. Donc cette question-là, elle doit quand même être tranchée. Et aujourd'hui, le Parti Socialiste doit refonder un corpus, un doctrinal, un discours. Et aujourd'hui, on le voit que timidement. Il y a un énorme travail idéologique à mener.
Valérie Rabault, est-ce que sur ce point de vue-là, sur ce que dit Rémi Lefebvre, vous ne risquez pas de vous faire dépasser par le mouvement Génération de Benoît Hamon, par exemple? Est-ce que lui, il ne l'a pas trouvé, le passage entre les Insoumis et La République En Marche?
Il y a effectivement... Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille se définir par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Je pense que c'est dangereux, au contraire. Il faut, je pense, bien au contraire, que le Parti Socialiste doit définir sa ligne propre. Et de fait, il trouvera un espace entre Benoît Hamon, Mélenchon et aussi Macron.
C'est pas avec, hein, parce qu'on peut aussi avoir cette idée à un moment donné. Mais on arrive toujours à un moment donné à François Mitterrand, qui est en 71, le congrès d'Épinay, hop, il arrive à regrouper toute la gauche. Rêve, quoi, qui pourrait être aujourd'hui celui du PS. Vous ne croyez pas à ça?
D'abord, je pense que nous n'avons pas François Mitterrand parmi nos rangs, ce qui est peut-être à l'heure actuelle. Donc, c'est ce qui est peut-être, en tout cas, ce que je peux regretter. Mais je crois que avant d'aller vers les autres, il faut se définir soi-même.
D'accord. Et alors, c'est-à-dire,
alors, pardon, oui, comment on se définit?
C'est sur, je prends que ce soit sur la ligne économique, sur l'Europe. On a évidemment, par rapport à Mélenchon, qui souhaite avoir une vision beaucoup plus fermée. Nous pensons que l'Europe est un espace politique qui permet d'incarner aussi le futur que nous voulons. Donc ça, c'est très clair. Tout à l'heure, vous disiez, c'est très difficile de négocier avec les Européens. Sur certaines questions, oui, je ne vais pas vous mentir. Sur d'autres, non. Quand on a lancé tout ce qui était la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, on a trouvé des partenaires. Et des partenaires à gauche.
Se définir soi-même, ça peut vouloir dire aussi savoir retrouver un certain idéal. Bonsoir Pierre-Alain.
Oui, bonsoir.
Et c'est un peu le sens de votre question.
Oui, ma question, en effet, est portée sur l'idéal, parce que je crois qu'on a vécu une sorte de remise en cause des idéologies, mais qu'aujourd'hui, puisque le titre de votre émission, c'est « Il faut retrouver une boussole », je pense que c'est retrouver le plaisir et l'énergie d'un idéal. On a un gouvernement qui revendique, en fait, de mettre en place des techniciens qui sont ni de gauche ni de droite. Je pense que c'est très dangereux, que les gages qu'on peut donner en capacité à gouverner techniquement, le Parti Socialiste a pu les donner, même si on a pu être d'accord ou pas d'accord avec certaines de ses des lois qui ont été passées et de ce qui a été fait. Mais par contre, je crois que ce qui lui manque, j'ai passé pas mal de temps avec des groupes de travail qui s'appellent En Commun ou Parti Socialiste, là, ces derniers mois, il y avait plein de jeunes. Et eux sont pleins d'énergie et ils ont besoin d'un idéal. Alors, l'idéal du Parti Socialiste, c'est plus de justice sociale. Et je pense que dans une période où on a plein de défis devant nous qui peuvent être écologiques, numériques, génétiques, il faut avoir un cap et avoir un idéal parce qu'au contraire, ça rend, je pense, les décisions plus faciles et ça évite les déconvenues qu'on a eues ces 5 dernières années au pouvoir.
Pierre-Alain, merci beaucoup. Rémi Lefebvre, pour répondre à Pierre-Alain, peut-être, sur le déficit d'idéal, effectivement, du Parti Socialiste aujourd'hui.
Oui, effectivement, le problème du Parti Socialiste est que, au-delà de son déficit de crédibilité, c'est-à-dire le fait que finalement on lui reproche de ne pas avoir mené la politique sur laquelle il avait été élu, on voit mal aussi finalement l'utopie que doit porter, que portent aujourd'hui les socialistes, parce que la gauche et la gauche socialiste est toujours définie par rapport à une perspective de transformation de la société. Le Parti Socialiste est un parti réformiste, mais ce n'est pas un parti, c'est un parti de transformation sociale. C'est-à-dire on définit une société idéale et on essaie d'y parvenir par la réforme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit mal aujourd'hui, on l'a vu du côté de Benoît Hamon. Benoît Hamon a porté dans la dernière campagne présidentielle vraiment un idéal de société non productiviste, écologiste, alors effectivement qui n'a pas forcément trouvé son public parce que le revenu universel est tombé un peu comme un cheveu sous la soupe dans le débat politique, qui n'avait pas été du tout une doctrine du Parti Socialiste, hein. C'est une question qui n'avait jamais été vraiment discutée au sein du Parti Socialiste. Et donc la difficulté pour le Parti Socialiste, c'est à la fois de retrouver une crédibilité et de ne pas renoncer à son idéal de parti gestionnaire, hein, ce qui le différencie sans doute de Jean-Luc Mélenchon qui est dans une posture peut-être un peu plus tribunicienne, et en même temps de définir un cap. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quoi le cap du socialisme ? C'est la justice sociale ? C'est un peu vague, la justice sociale. La lutte contre les inégalités dans une société de plus en plus dure, c'est un peu un idéal négatif. Et donc, et ça c'est un peu la tragédie de la gauche, hein, mais pas seulement du Parti Socialiste, la tragédie de la social-démocratie, c'est qu'on est dans un univers où les populismes, univers politique où les populismes prospèrent, où les postures radicales sont aussi très présentes, et finalement un idéal de progrès social, aujourd'hui il est très difficile à construire par la réforme, voilà, donc je le répète, c'est un travail intellectuel considérable, et l'EPS doit vraiment se mettre au travail, et très rapidement.
Valérie Rabault, si vous deviez vous définir un cap, si en une phrase et en une ligne, vous disiez voilà, le Parti Socialiste c'est ça, ça doit être ça. Vous diriez quoi ?
En une phrase.
Ouais. Bah vous avez le droit à deux ou trois, mais. Si on veut donner une définition.
Oui, je vais vous donner une définition. Mais on sort d'une campagne électorale où le vainqueur, Emmanuel Macron, a ciblé sur l'individualisme. C'est-à-dire qu'il s'est adressé à chacun avec son individualité, son individualisme. Donc, effectivement, face à ça. Le cap que veut le Parti Socialiste, c'est de donner des droits à chacun qui tiennent compte de l'évolution de la vie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours le même boulot, on aura des périodes de chômage, et que pour autant, on ne doit pas être mis sur le bord de la route. Eh bien, ce cap-là, il passe par plein de choses. Il passe par un compte formation, il passe par des droits quand on change de travail. Il passe par le fait que la vie n'est pas linéaire. Et que, effectivement.
Pardon, hein, je vais sûrement dire une hérésie, mais j'ai l'impression d'entendre parler un peu quand même Emmanuel Macron. Là,
mais c'est exactement ce que j'allais dire. Bravo Fabienne, vous mettez
les mots de la bouche. Quand même.
Oui, enfin, vous aurez quand même observé que Emmanuel Macron a fait passer des ordonnances travail qui ne sont pas du tout sur ce cap-là.
Oui, la méthode est une chose, le discours est autre chose. Et là, dans le discours, vous n'êtes pas très loin de ce qu'on entend dans La République en Marche.
Je pense que. Mais moi, je regarde toujours les faits, vous savez. J'observe que le Parti Socialiste a créé le compte personnel d'activité qui donne des droits, ce qui a été fait la dernière fois, alors ce qui est peut-être mis en avant. J'observe que le Parti Socialiste a maintenu les services publics dans les territoires ruraux. J'observe pendant le précédent quinquennat. J'observe que ça, ce sont des faits concrets. J'observe que le Parti Socialiste a aussi, pour les Français qui gagnent le moins, baissé l'impôt sur le revenu. Ça, ce sont des réalités concrètes. J'observe que Emmanuel Macron augmente les impôts de manière très significative pour tous les Français qui ont moins de 1500 euros. Donc, on peut avoir des mots, on peut se faire plaisir. Ce qui compte, c'est d'avoir des faits. Eh bien, aujourd'hui, quand on dit c'est quoi la prochaine ligne du Parti Socialiste, c'est de dire, voilà, le monde est ouvert. et contrairement à Jean-Luc Mélenchon, nous sommes dans un monde ouvert. Et la capacité du Parti Socialiste, c'est de définir des droits qui sont des droits réels, pas des droits rêvés, comme peut-être certains l'ont dit ici à votre micro.
Laurence Perron, avant qu'on écoute Zacharie.
J'ai envie de vous demander comment vous en êtes arrivé là. Vous parlez du compte personnel d'activité, super, c'était au moment de la loi El Khomri. La loi El Khomri restera, mine de rien, une tâche sur le quinquennat Hollande, tout comme la déchéance de nationalité, en tout cas pour des gens
mais
qui étaient très à gauche.
Je suis bien d'accord avec vous, mais pas que pour des gens très à gauche. Pour, je pense, beaucoup au Parti Socialiste.
Mais alors comment on en
mais
est arrivé
là? Mais ça ne veut pas dire que le compte personnel d'activité ne soit pas une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'il était inscrit dans une loi que nous ne partagions pas très majoritairement au Parti Socialiste, qu'il n'est pas une bonne chose et qu'il ne donne pas des droits aux salariés, qu'il ne donne pas des droits aux bénévoles qui s'engagent, qui peuvent aussi comptabiliser leurs heures. Ça, ce sont des choses concrètes, des réalités concrètes. Vous êtes sapeur-pompier volontaire, vous vous engagez pour les autres, vous pouvez mettre dans votre compte personnel activité des heures qui vous donneront droit à de la formation, à évoluer, à faire en sorte que vous ne ferez peut-être pas toujours le même métier dans la vie. Ça, ça compte et ça, c'est une réalité. Alors, on peut dire d'autres s'en sont emparés pour peindre un idéal. Nous, ce qu'on dit, c'est que les droits doivent suivre tout au long de la vie et que cette vie-là n'est pas forcément linéaire. Vous n'êtes pas toujours chez le même employeur, vous pouvez bouger et que ça doit permettre à chacun de s'y retrouver aussi dans sa relation au travail.
La dernière question, c'est pour Zacharie. Salut Zacharie.
Bonjour.
Ravi de te réentendre au téléphone, son, on t'écoute.
Merci, oui. Alors,
grand habitué de la maison, Zacharie.
Au vu de la Ve République, où l'élection présidentielle a quand même été importante dans le système politique, du score de Benoît Hamon, et d'une nécessité peut-être de renaissance dans la garde nation, et de Jean-Luc Mélenchon, qui est en tribun, vous le disiez, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité ou un risque, au choix, que le congrès du PS soit en fait une primaire déguisée, où l'homme ou la femme qui en sortira devra aller après à la présidentielle, ou en tout cas l'incarner?
Merci beaucoup, Zacharie. Excellente question de Zacharie, Rémi Lefebvre. Est-ce que le danger de ce congrès, c'est pas ça?
Non, je crois pas, honnêtement. Je pense que là, le PS est dans une trop mauvaise situation pour pouvoir envisager. Et puis, on est au tout début quand même du mandat. Là, je pense que aucun des prétendants, des candidats, ne pense, même en se rasant, à cette échéance. Par contre, évidemment, la question qui va se poser pour le Parti Socialiste, c'est l'articulation entre le leadership du parti et le leadership présidentiel. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le Parti Socialiste va à nouveau procéder à des primaires ouvertes pour désigner un candidat? Parce que c'était un désastre, ces primaires quand elles ont opposé Manuel Valls et Benoît Hamon. Et de manière plus générale, la question qui est aussi posée au Parti Socialiste, c'est quelle réforme institutionnelle, hein. C'est-à-dire, ce qu'on a vu aussi, un des enseignements de la période Hollande, c'est qu'en fait, Hollande s'est aussi, par présidentialisme, beaucoup mis à distance de son parti. Et donc, la question, c'est aussi, est-ce que ces institutions, la Ve République, le PS veut les réformer ou pas? Parce que Hollande n'a pas du tout cherché à les réformer. Il a incarné, au départ, une présidence normale, et puis après aussi une hyper-présidence. Donc la question des institutions sur lesquelles se fracasse toujours le Parti Socialiste quand il est au pouvoir, c'est aussi une question que le PS doit mettre à son agenda.
Valérie Rabault, il nous reste à peine 30 secondes. Est-ce que, rapidement après ce que vient de dire Rémi Lefebvre, est-ce que vous êtes vaccinée des primaires?
Notre collectif fait des propositions sur les primaires, pour pas qu'elles aient lieu de la même façon qu'elles ont eu lieu.
Mais il faut toujours des primaires malgré tout.
Nous avons toujours
pas le système des primaires, c'est la manière dont ça a été fait.
Nous avons toujours voté pour nos candidats.
Merci
contrairement
beaucoup
à d'autres partis.
Merci Valérie Rabault, merci Rémi Lefebvre, merci à vous aussi Laurence Perron, merci à tous d'avoir participé au téléphone sonne ce soir.